Merci. Voilà qui nous fait entrer de plein pied dans la partie questions-réponses et comme d'habitude, éteignez vos portables ou mettez-les sous silencieux pour nous permettre d'échanger d'une manière tranquille. Alors, on va commencer cette fois-ci par ma gauche et on reviendra par ma droite.
Merci, c'est Marthe Bossoin-Dolé pour l'agence France-Presse. Une question militaire. Le lundi, cinq militaires, du moins selon la MONUSCO, cinq militaires congolais et un casque bleu avaient été blessés lors des combats contre les ADF. Et aujourd'hui, on aimerait savoir quel est le sort de ces militaires. Mais aussi, si vous le permettez, Madame
Une
Marshall.
question.
On aurait appris que des humanitaires ont été enlevés dans les Lubero. Est-ce qu'on confirme l'information?
Alors, pour les autres, une question pour permettre à tout le monde enfin, pas à tout le monde, à la majorité de pouvoir parler. Pour votre première question, effectivement, cela s'est passé le 8 août. C'était au cours d'une opération conjointe avec les FARDC, FARDC et MONUSCO. Et plus précisément dans le sud-est d'Eringeti, dans le triangle ADF. Et il y a eu des échanges de feu, et au cours de ces échanges, il y a eu des blessés. La MONUSCO a fait une première tentative pour secourir ces blessés. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Mais à la date d'hier, la MONUSCO a encore refait cette tentative pour sauver ceux qui étaient blessés. Et cette fois-ci, ça a été un succès. On a pu sauver, on a pu récupérer les blessés. Et le chiffre a augmenté depuis hier. C'était finalement 11 blessés du côté des FARDC et un blessé du côté de la MONUSCO. Donc l'opération pour sauver ces personnes s'est réalisée avec succès. Donc la deuxième question, Florence.
Oui, concernant la deuxième partie de la question, je vais passer la parole à Vicky Prekabo, qui est à Goma et qui s'occupe de la communication d'Otche à Goma et qui va pouvoir tenter de répondre à la question posée. Vicky, c'est à vous.
Oui, merci beaucoup, Florence. Merci beaucoup, Florence. Jusque-là, nous attendons des confirmations par rapport à cette question. Donc voilà. Ce n'est pas encore confirmé si réellement les personnes qui ont été enlevées étaient bel et bien des agences humanitaires.
Ok, la
Merci.
deuxième question, j'avais promis, oui, donnez au monsieur qui est à côté, oui.
Oui, merci. Théodore Ngandou au compte de Télé7.
Oui, posez votre question, s'il
Oui,
vous
je
plaît.
disais Théodore Ngandou au compte de Télé7. Comment est-ce que la MONUSCO réagit à la déclaration faite hier par le collectif des 33 ONG qui demande à la MONUSCO d'arrêter son soutien à la CENI. Le collectif estime que la CENI roule pour les glissements du cycle électoral. Comment est-ce que la MONUSCO réagit à cette demande du collectif?
Pour commencer, en fait, la déclaration ne date pas d'hier. La déclaration, c'est un communiqué qui date même depuis le 7. Et nous, à la MONUSCO, nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire. Nous notons que le groupe d'ONG est bien sûr dans son rôle de veille et d'alerte. Et c'est tout à fait normal que ces ONG puissent faire des déclarations. Quant à nous, en fait, en réalité, nous ne nous posons pas cette question parce que, en vertu de la résolution 2277, nous avons une feuille de route très claire qui est de soutenir le processus électoral et nous avons deux volets, c'est le volet appui technique et le volet appui logistique, bien entendu, sans oublier les bons offices. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous lançons peut-être un appel à ces ONG pour qu'ensemble, avec la MONUSCO, nous puissions unir nos forces de façon à discuter, à essayer d'amener l'ensemble des acteurs congolais à se mettre ensemble pour discuter, et dialoguer et faire des propositions concrètes de façon à nous amener à avoir un fichier électoral crédible qui nous conduira à des élections apaisées en RDC. Nous allons à Goma pour deux questions.
Oui, merci. C'est Gina Moulumba pour le compte d'Emmanuel TV. Je vais poser ma question à Vicky Précabo. Avec la situation qui se passe actuellement dans le Massissi, avec cette manifestation des jeunes contre les ONG du domaine humanitaire, peut-on maintenant savoir quelle est l'actuelle situation des déplacés dans le camp, dans les camps dans ce secteur? Ont-ils d'une certaine manière accès à une assistance humanitaire ou cette manifestation des jeunes bloque toutes les opérations? Merci.
Voilà, merci pour la question. Je pense que la réponse est simple, comme vous l'avez si bien dit. Les jeunes bloquent l'accès au niveau de Sake. Donc, si l'accès est bloqué, nous ne pouvons pas nous rendre dans l'autre côté. C'est pour cela que nous sommes en discussion avec ces jeunes et nous avons rencontré également les autorités pour plaider en faveur de la réouverture de cet accès pour que nous puissions atteindre les vulnérables. Voilà, merci.
Nous laissons, oui, et un complément d'information par Florence.
J'apporte un complément. Hier, le docteur Diallo, en tant que coordonnateur humanitaire, s'est exprimé à ce sujet, tout en indiquant qu'il prenait acte des préoccupations de la jeunesse ou de la population dans cette région, dans cette partie de la RDC, et en indiquant aussi que l'un des objectifs de la famille humanitaire, donc à la fois les ONG et les organisations des Nations Unies, c'est quand les conditions de sécurité le permettent, c'est d'associer les populations locales dans le développement de réponses afin de pouvoir donner de l'emploi et des revenus aux jeunes. Vous le savez, on vous le répète régulièrement, de l'humanitaire, on veut arriver à des solutions durables, à identifier des solutions qui feront que les gens ne soient pas déplacés fréquemment. Et dans l'identification de ces réponses, évidemment, l'un des objectifs de la famille humanitaire, c'est d'associer les populations locales en respectant toutes les populations locales. Mais ça, bien évidemment, cela ne peut se faire que lorsque les conditions de sécurité le permettent. C'était le sens du message envoyé hier par le docteur Diallo dans sa qualité de coordonnateur humanitaire en RDC.
Merci Florence. Nous restons à Goma pour la deuxième question.
Oui, merci beaucoup. C'est Guilain Baloumé pour le compte de Gouvernance Plus Africa Connection Kinshasa. En fait, vous, comme la MONUSCO, comme une Bible pour une Église, la résolution 2277 comme votre référence pour le moment. Par rapport à la crise actuelle en République démocratique du Congo, tant politique que sociale, est-ce que la MONUSCO n'est pas en dehors de l'application de la résolution 2277. Merci.
Non, je ne pense pas que nous soyons en dehors de la résolution 2277. La 2277, c'est notre ligne, c'est la ligne de conduite que nous avons. Donc, nous ne sommes pas du tout en dehors de cette ligne-là. Vous savez, la résolution 2277 demande d'une manière explicite, c'est une indication claire faite au système des Nations Unies, à aider Congo, et la mission et les agences, fonds et programmes, d'accompagner techniquement et logistiquement tout le processus, en commençant bien sûr par le fichier électoral. Et plus loin, certains paramètres qui sont définis dans la résolution 2277, quand les conditions d'apaisement, d'inclusivité, de transparence des élections sont créées et l'espace politique pour accompagner aussi les élections, c'est l'interprétation que nous avons de la résolution 2277. Donc nous ne sortons pas hors de ce cadre-là. Et c'est ce que nous faisons tous les jours et nous lançons toujours un appel à ce que les acteurs puissent se mettre ensemble pour discuter et dialoguer. Vous savez, il y a cette dimension technique, mais il y a aussi une dimension politique. C'est pour cela les bons offices, le représentant spécial du secrétaire général en RDC, ne cesse de multiplier ces bons offices, de rencontrer, que ce soit du côté de la majorité, que ce soit du côté de l'opposition, de rencontrer les personnes engagées et essayer de voir comment trouver un consensus pour que tout le monde s'asseye et discute. Voilà. On revient ici. Une question à droite et une question à gauche. Le micro est où? Ok, on commence par la droite d'abord.
Merci, Albert Omba, Numérica TV. Je voudrais juste avoir une petite précision au porte-parole militaire AI de l'incident qui a eu à Beni sur l'hélico qui a pu avoir des problèmes techniques. C'était dit à quoi et l'enquête a commencé et quelles sont les conclusions préliminaires de cet incident?
Si vous permettez, je vais... capitaine, je peux peut-être commencer un élément de réponse et si vous voulez, vous pouvez compléter. En fait, ce qui s'est passé... Ce qui s'est passé hier n'a pas de relation directe avec le fait que je viens de vous relater. C'est-à-dire, ce n'était pas un hélicoptère qui était en combat. C'était un hélicoptère qui était... en fait, en partance pour Goma, et pour des raisons techniques, défaillances techniques, cet hélicoptère donc a crashé dans les environs. Donc voilà, mais il n'y a pas eu de dommages particuliers, il n'y a pas eu de blessés lors de ce crash, mais il y a des dégâts matériels. Et les investigations sont en cours, l'inspection est en cours pour voir dans quelle mesure on peut remettre, on peut faire des réparations sur cet appareil. Est-ce que, capitaine, vous avez quelques éléments pour ajouter à cet élément de réponse?
Non, absolument pas, c'est tout.
Très bien. Nous passons donc à la deuxième question que j'avais promis à ma gauche ici. Nous avons encore le temps, vous aurez la parole. Madame, posez votre question.
Merci, c'est Elvira Pantou pour les comptes de la radio-télévision à Louange. Je voulais juste avoir la réaction de la MONUSCO par rapport au refus du visa à Madame Ida Sewer de Human Rights Watch. Merci.
Oui, c'est vrai. Nous aussi, on a appris que Madame Ida Sewer n'a pas pu renouveler son visa. Nous la connaissons bien, c'est une personne qui travaille ici depuis janvier 2008. C'est une personne talentueuse et professionnelle. Et nous espérons que dans les prochains jours, cette décision sera révisée et qu'elle pourra, si la situation le permet, elle pourra revenir en RDC et continuer le travail qu'elle fait ici. Voilà. Nous repartons à Goma. On va revenir ici. Ne vous en faites pas. Nous avons encore au moins 15 minutes. Goma, deux questions.
Oui, c'est monsieur Okito Papi du journal Écho d'Opinion. En fait, madame, malheureusement que vous n'êtes pas souvent sur le terrain, vous êtes toujours à Kinshasa, mais ne trouvez-vous pas, en fait, les revendications des jeunes de Massissi très légitime, d'autant plus qu'ils disent que les humanitaires ou les responsables humanitaires utilisent plus les expatriés qui roulent les grosses carrosses au détriment de ces jeunes. Hein, où les projets n'arrivent pas à leur terme. Donc tout ça, ils ne trouvent pas vraiment légitime leurs revendications. Merci.
Alors tout d'abord une précision, je vais sur le terrain, je connais le terrain. Et la deuxième précision, c'est que comme on l'a dit, nous entendons les revendications, mais nous ne voulons surtout pas entrer dans la polémique.
Bien, merci. On revient ici pour deux questions. Non, au milieu là. Non, le monsieur là. Oui. Oui.
Merci. Moi, c'est Flavien Msens pour les comptes de Planète Télévision. Je reviens sur les campagnes que l'UNICEF doit lancer demain. L'objectif de cette campagne, c'est pour sensibiliser les élèves qui rentrent à l'école. Mais moi, je me demande comment est-ce que cette campagne doit se passer. Est-ce une campagne sera médiatisée ou ça sera porte à porte ou encore ce sera une campagne publique? Ça, c'est au milieu urbain. Alors, au milieu rural, ça doit se passer comment? Merci.
Donc, comme annoncé, donc c'est une collègue de l'UNICEF, spécialiste des questions de l'éducation, qui va répondre à votre question.
Non, c'est bon, allez-y, le micro marche.
Okay. D'accord, merci. Allez-y. Donc, la campagne sera officiellement lancée demain. Elle est faite en plusieurs étapes, en fait. La première, donc, c'est le lancement officiel au niveau national, suivi de campagnes de lancement dans les provinces. Elle consiste essentiellement à sensibiliser les parents sur l'importance de l'éducation et ses bienfaits. Mais après cette phase initiale qui vise à inciter les parents à inscrire leurs enfants à l'école, il y a aussi la campagne porte-à-porte qui consiste à aller dans les ménages pour identifier les enfants qui n'auront pas été inscrits dans les 2 semaines qui suivent la rentrée scolaire. Il y a aussi le volet qui vise à alléger un peu la charge pour les parents de l'éducation de leurs enfants et qui consiste à distribuer des kits scolaires à environ 1,4 million d'enfants, disons 1,5 million d'enfants. Donc c'est en plusieurs étapes. Il y a tout le volet communication, sensibilisation, mais il y a aussi le volet prise en charge partielle des frais de scolarisation.
Voilà. Merci pour cette réponse et qui a été faite par Madame Epina Ndia et qui travaille à la section éducation de l'UNICEF. Merci, Madame. Une question, cette fois-ci, à ma gauche. OK, donnez à Madame. Ne vous en faites pas, vous aurez la parole.
Par rapport à l'attaque sur Kibirizi, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de l'évaluation que vous faites de l'ampleur de la crise en termes de nombre de déplacés et autres? Et le dispositif sécuritaire, on avait parlé d'un TIOBI qui devait être installé à Kibirizi lors de la précédente attaque, après la précédente attaque. En tout cas, c'est ce qu'avait dit le porte-parole militaire, que vous étiez en train de regarder les emplacements. Il y a eu une nouvelle attaque et entre les deux, il n'y avait pas eu de TIOBI. Est-ce que vous pensez que vous allez installer un campement temporaire en fait, de casques bleus là-bas?
Monsieur capitaine Agoma, est-ce que vous avez quelques éléments de réponse à cette question? Sinon, j'en ferai une ici. À vous, capitaine.
Oui, bien sûr. Alors, pour le Taïobé, c'est pas encore mis sur place, mais pour répondre à cet affrontement, alors il faut d'abord dire que l'affrontement, c'est un affrontement ethnique entre les communautés soutenues par des groupes armés associés. Alors, une patrouille en provenance de Rohingya a été lancée à 8h30. Cette patrouille a interagi avec le chef du groupement et les villageois du village de Kibirizi depuis que le chef du village et le chef de la communauté ne sont pas disponibles. La patrouille a également rencontré le commandant du 3409 régiment des FARDC situé à Katanda, qui était également présent dans le village, et encore des patrouilles seront planifiées davantage dans la région pour prévenir des incidents futurs. Merci.
Merci pour votre réponse. Est-ce que, Monsieur Vicky, vous avez un complément de réponse à donner?
Concernant les humanitaires, la situation reste précaire. C'est vrai, il y a eu des déplacements vers les villages voisins, et là, nous nous réservons d'avancer et de donner des chiffres parce que ce sont les partenaires ou certaines personnes localement qui les ont avancés comme ça, donc c'est des chiffres bruts. Nous attendons une accalmie pour pouvoir nous y rendre pour des évaluations afin de déterminer les besoins pour éventuellement préparer une réponse. Merci.
Merci. Nous restons à Goma pour 2 questions avant de revenir à Kinshasa.
C'est Daniel Michombero pour Vision Chala. Notre question, nous l'adressons à Franck. Plus de 2 millions d'élèves vont reprendre le chemin de l'école et quelques fournitures scolaires les seront distribuées. Quelles sont les différentes stratégies que votre section apprise pour la sécurité des élèves qui sont présents dans des zones qui sont déchirées par la guerre? Merci.
OK. Je crois que la question est adressée à Mme Epina Ndia, qui est chef de section éducation à l'UNICEF. Vous avez la parole pour répondre.
Bon, je n'ai pas forcément de réponse sur les questions sécuritaires. Disons que dans les zones d'insécurité, une des raisons de non-scolarisation des enfants, c'est justement la crainte des parents qu'il arrive quelque chose aux enfants. Ce que nous essayons de faire, c'est faire en sorte qu'une fois que les enfants soient à l'école, ils soient dans un milieu sûr. Nous intervenons aussi dans les camps qui existent pour faire en sorte que ces enfants qui sont déjà dans les camps puissent avoir accès à une éducation de qualité. Maintenant, pour tout ce qui est de l'accompagnement des enfants sur le chemin de l'école, bon, nous n'intervenons pas particulièrement dans ce domaine.
Merci. La deuxième question, s'il vous plaît, à partir de Gouman.
Merci, Majid, pour Moutane FM et Amina News. Je pose la question à Florence. Vous nous avez dit que vous avez mené la campagne contre la stigmatisation par rapport aux personnes vivant avec le VIH. Qu'est-ce que nous dirons par rapport aux perdus de vie, notamment les femmes allaitantes qui ont commencé déjà à prendre les ARV, mais ils sont perdus de vie?
Est-ce que la question n'est pas très claire? Est-ce que vous pouvez reformuler ça d'une manière précise et claire, s'il vous plaît?
Oui, on a parlé de la campagne par rapport à la stigmatisation de PVV. Je pose la question de savoir qu'est-ce que nous dirons par rapport aux perdus de vie, surtout les femmes allaitantes qui ont commencé à prendre les ARV.
J'avoue qu'elle n'est pas encore, elle n'est pas plus claire. Ben Florence, est-ce que tu peux tenter une réponse?
Je vais essayer de tenter. Non, je vais surtout vous dire que je prends bien note de la question. Et comme ça arrive, on l'a vu aujourd'hui, je vais me rapprocher des collègues de l'équipe de pays, notamment Unicida, mais tous ceux qui sont engagés dans la lutte contre le sida. Et je vais leur demander de m'apporter des éléments de réponse que je communiquerai à la conférence de la semaine prochaine.
Voilà, merci. Nous revenons donc à Kinshasa et je sais à qui je vais donner la parole.
Merci, monsieur le porte-parole. Mesdames, oui, du journal Le Potentiel. Excusez-moi d'avoir brandi mon petit doigt il y a longtemps.
C'est de bonne guerre, c'est bien.
Oui, posez votre question, s'il vous plaît. Monsieur le porte-parole, la situation politique au pays demeure confuse. Comprenez que le peuple congolais voudra avoir des assurances et des réponses claires de la part de la MONUSCO quant à l'application de la résolution 2277. Et l'opposition récuse Edem Kodjo. L'ONU lui renouvelle sa confiance. Monsieur le porte-parole, qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Et qu'adviendra-t-il? Croyez-vous que malgré vos bons offices, le dialogue tant attendu pourra-t-il apporter gain de cause?
Je pense que si on ne croyait pas à nos efforts, on ne serait pas en train de continuer à faire ce que nous faisons comme travail. Donc, pour nous, l'espoir est permis. Donc, nous allons continuer les bons offices en espérant que nos bons offices vont finalement porter des fruits. C'est pour cela que nous soutenons le groupe de soutien aux facilitateurs. Et vous vous rappelez très bien, à leur dernière rencontre, ils se sont réunis du 2 au 5 août, et à la dernière rencontre, ils ont rappelé qu'ils soutenaient le facilitateur dans sa démarche, et c'est ce que nous aussi, à la MONUSCO et les Nations Unies, nous avons espoir, c'est ce que nous faisons, nous soutenons le facilitateur dans sa démarche. Et nous renouvelons donc notre confiance et nous réaffirmons aussi l'importance qu'il y a à tous les acteurs congolais de s'asseoir et discuter entre eux pour dégager une feuille de route qui permette d'aplanir les dissensions qu'il y a entre eux et de façon à pouvoir tracer la feuille de route claire pour aller vers des élections paisibles et crédibles. Voilà ce que je peux vous répondre par rapport à cette question. Donc oui, nous espérons, nous croyons qu'au bout de la route, nous allons arriver à des fruits. Donc, deuxième question. Oui, bon, donnez à monsieur.
Merci, c'est Isaac Nguenza pour le compte de Congo Opportunities Media. Je reviens à la question de mon confrère, parce qu'il s'agit de l'actualité. L'opposition a clairement émis son vœu de participer au dialogue, mais avec certains préalables, entre autres la libération de prisonniers politiques et de chaînes de télévision que le gouvernement avait fermées. Dès lors que ces préalables ne sont pas résolus. L'opposition dit qu'elle ne va pas participer à ces dialogues. Mais moi, ma question est de savoir, vous voulez qu'on aille au dialogue. Vous connaissez ceux qui bloquent les dialogues. Pourquoi ne pas décrisper ça en trouvant une solution pour libérer toutes les chaînes de télévision fermées et les opposants? Comme ça, on va aller au dialogue. Pourquoi on ne peut pas résoudre ça d'abord, au lieu de parler de groupes de soutien, ainsi de suite? Merci.
Oui, je vous dirais ceci. Si je me rappelle un peu ce que le groupe de soutien a fait comme recommandation lors de sa dernière réunion, il y a un point sur lequel, si vous lisez attentivement ce que ce groupe a dit, il y a un point sur lequel ils insistent en disant qu'ils félicitent le gouvernement pour les mesures prises en vue de l'apaisement par la libération de certains prisonniers politiques. Il ajoute, le groupe ajoute, qu'il encourage le gouvernement à poursuivre dans ce sens, notamment en libérant d'autres prisonniers politiques et en garantissant, je cite, une justice équitable qui puisse garantir les libertés publiques et l'accès équitable aux médias. Ça, c'est clairement dit dans leur dernier communiqué de presse. Donc, nous pensons que c'est par ce volet que nous pouvons trouver la voie, l'issue à tout ce qui se pose comme crise, comme dissension, comme malentendu en ce moment. Voici la réponse que je vous fais à ce sujet. Donc, nous avons Radio Capi, on va rendre l'antenne, mais nous allons continuer avec une question à Goma, une question à Kinshasa avant de terminer. Une question à Goma, rapidement, s'il vous plaît.
Merci pour la parole. Je suis Norbert Mundula pour le compte du journal L'Emergence. Un journaliste de Goma est en danger. La sécurité de ces journalistes, le journaliste dit qu'il est sécurisé par un colonel de la police nationale congolaise. Il affirme avoir été pris en filature en plein reportage. Moi, je voudrais savoir quelle est surtout la position de la MONUSCO, et surtout que ce journaliste-là est de la radio Capi. Parce que la solidarité l'oblige. Merci.
Merci pour votre question. Vous savez, nous sommes bien imprégnés de cette question que nous suivons au jour le jour. On ne peut pas tout mettre sur la place publique, mais je peux vous garantir que c'est un problème qui est pris à bras le corps par le leadership de la mission à un très haut niveau. Et nous ne cessons de discuter pour aplanir les dissensions qui sont intervenues entre la police à Goma et un journaliste de Okapi. C'est un problème qui est en voie de trouver une solution et nous ne cessons justement d'appeler à ce qu'il y ait une compréhension, un règlement pacifique de ce malentendu, que je qualifie en tout cas de malentendu, entre la police de Goma et le journaliste de Radio Okapi. On revient ici pour la dernière question. Il y a un monsieur qui a demandé la parole, je me rappelle, la dernière fois qu'il ne l'a pas eu, c'est vous. Prenez la parole, s'il vous plaît.
Merci, c'est Rigobert Kabongo pour les Courriers d'Afrique du troisième millénaire. Les Congolais ont été rapatriés du Congo Brazza et de l'Angola avant les opérations électorales dans ces pays-là. Aujourd'hui, les Congolais, nous sommes appelés à l'enrôlement et l'opération d'enrôlement se déroule présentement dans le nord Ubangi où sont massé beaucoup de centrafricains. Je voulais avoir des précisions à l'humanitaire Sylvestre sur le nombre de ces réfugiés centrafricains. Seront-ils rapatriés et quand? Et leur prise en charge est assurée par le gouvernement congolais ou par les Nations Unies?
Oui, merci. Sylvestre, est-ce que tu as des éléments de réponse?
Le rapatriement des réfugiés centrafricains. D'abord, il faut savoir que le rapatriement, c'est une question volontaire. On ne force jamais les personnes au rapatriement. C'est parmi les principes humanitaires. Et vous savez aussi que ce rapatriement dépend de l'évolution de la situation en République centrafricaine. Aussi longtemps que ces personnes ne se sentiront pas sécurisées pour un retour dans leur milieu d'origine, il ne nous appartiendra pas de les forcer à rentrer. Aujourd'hui, il y a autour de 100 000 en République démocratique du Congo. Il y en a qui sont pris en charge dans des camps, dans des sites de déplacement, notamment dans les provinces de Lubangui et aussi dans les provinces des Ouélé. Je crois, je ne sais pas si j'ai oublié un volet de votre question, mais l'enrôlement qui se fait, il se fait pour les nationaux, mais ça, c'est une question qui ne nous concerne pas, nous, les humanitaires. Je suppose que ceux qui sont concernés par cette question d'enrôlement prennent des précautions pour que l'enrôlement se fasse selon les règles établies.
Merci. Voilà qui met fin à la conférence d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et à la semaine prochaine.